Tout au début de notre série, dans le livre de Genèse, j'ai dit que ces chapitres sont clés dans notre compréhension de la plupart des questions dans notre vie, des questions les plus fondamentales dans l'existence de l'homme. On trouve des réponses dans ces chapitres pour savoir qui est Dieu et comment est Dieu. Nous nous tournons à ces chapitres. Pour comprendre l'origine de l'univers même, nous nous tournons à ces chapitres. Pour comprendre qui nous sommes et quelle est notre place dans l'univers, nous nous tournons à ces chapitres. Pour comprendre le mal qui est dans le monde, la souffrance qui est dans le monde, nous nous tournons à ces chapitres. Pour comprendre le plan de Dieu du salut, qu'il annonce pour le monde, nous nous tournons encore une fois à ces chapitres. Et aujourd'hui, nous verrons que ces chapitres, dans ces chapitres, nous trouverons ce qui va nous aider à comprendre qui nous sommes en tant qu'hommes et femmes. Ces chapitres expliquent, ces versets que nous venons de lire, expliquent le mariage, la famille, les institutions que Dieu a données pour le bien de l'humanité. Ces versets devant nous aujourd'hui décrivent le premier mariage, le premier couple, la première famille. Et nous tous, nous faisons partie d'une famille. Certains d'entre nous sont mariés, d'autres le seront un jour, d'autres peut-être pas. Mais nous tous, nous connaissons des gens mariés pour qui nous prions, qui nous aidons, que nous essayons d'aider. Alors, ces versets contiennent un enseignement qui est fondamental si nous voulons comprendre le mariage, cette relation entre homme et femme. Et nous allons voir aussi qu'il y a un enseignement qui est beaucoup plus profond qui est contenu dans ces versets. Et ce matin, je veux simplement considérer trois choses qui se trouvent dans ces versets. D'abord, Dieu est l'auteur du mariage. En deuxième lieu, Dieu décide le but et la nature, le caractère du mariage. Et en troisième lieu, Dieu se sert du mariage pour décrire une plus grande réalité. Alors, trois choses à noter dans ces versets. D'abord, nous notons que Dieu est l'auteur du mariage. On a vu il y a quelques semaines que le chapitre 2 du livre de Genèse nous donne des détails supplémentaires des événements du chapitre 1. Dans le chapitre 1, nous lisons « Dieu créa l'homme et à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Voilà une des choses que Dieu a faites le sixième jour. Et puis dans le chapitre 2, dans ces versets, nous voyons le processus de cette création de l'homme et de la femme. Nous voyons l'ordre, les pensées même de Dieu. Parmi tous les animaux qui ont été créés, Dieu sait qu'aucun animal ne correspond à l'homme pour être une compagne pour lui. Et pour la première fois, Dieu dit que quelque chose n'est pas bon. Dieu voit l'homme sans compagnon, l'homme seul, en solitude, et il dit, ce n'est pas bon. Et avec cette phrase, Dieu se prononce sur la solitude. Dieu dit que l'homme a besoin de compagnie. Et Dieu répond à ce besoin en l'homme, non pas en créant un deuxième homme, non pas en créant un nouvel animal, mais en créant une femme. C'est Dieu qui décide de créer la femme. C'est Dieu qui la crée en toute sa perfection. Il l'a créée à l'image de Dieu, avec la même dignité que l'homme. Verset 22, nous lisons « Dieu forma une femme ». Et on a vu la dernière fois que ce verbe « former » donne l'image d'un maître artisan en train de façonner une œuvre d'art et de lui donner la vie. Dieu forme la femme d'une des côtes de l'homme. Et un commentateur a dit là-dessus: elle a été formée ainsi de sa côte pour être égale à l'homme, au-dessus de son bras, pour qu'elle soit protégée, et à côté de son cœur, pour qu'elle soit aimée. Dieu prend soin pour créer la femme selon sa sagesse, selon sa volonté. C'est Dieu qui décide comment sera la femme. Ce n'est ni les forces d'évolution, ni le hasard. Dieu façonne la femme, sa nature, son corps, sa sexualité. Et puis c'est Dieu qui la présente à l'homme. Verset 22. Il l'amena vers l'homme. Tout comme un papa amène sa fille vers son futur mari le jour de son mariage. Dieu amène cette femme vers Adam. Dieu est l'auteur du mariage. Et le fait que Dieu soit à l'origine ou l'auteur du mariage, c'est important surtout de nos jours, où nous essayons de redéfinir ce qui est le mariage. Vous le savez, dans de nombreux pays, on a complètement changé la définition du mariage. On a complètement balayé tout enseignement biblique sur le mariage. Et dans le débat sur le mariage pour tous, la question n'était pas « qu'est-ce que Dieu dit là-dessus ? Que dit celui qui nous a donné le mariage ?» Non, on a posé plutôt la question « que dit notre société ? Qu'est-ce que nous voulons pour le mariage ?» Mais le fait que Dieu soit l'auteur du mariage veut dire que pour bien comprendre les buts du mariage, les rôles et les responsabilités dedans, nous devons nous tourner au manuel d'instruction que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la Bible. La Bible nous donne de nombreux conseils pour le mariage et la famille. Nous voyons de nombreux avertissements, des exemples à suivre et des erreurs à éviter. Dieu est l'auteur du mariage et c'est Dieu qui nous guide dedans. Dieu nous dit pourquoi le mariage existe. Et le fait que Dieu soit le mariage, l'auteur du mariage, nous dit aussi que le mariage est quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Dans notre société, on a tendance à dévaloriser le mariage. À dire que le mariage ne vaut plus rien. Qu'il est obsolète. Soit on fait ça, on dit « le mariage ne vaut rien ». Soit on va à l'autre extrême et on en fait une idole. On pense que le mariage, c'est le Graal. Il y a des gens qui pensent que le vrai bonheur ne se trouve que dans le mariage. Alors voici les deux extrêmes. Mais le chrétien reconnaît que le mariage est un don de Dieu. Un don que nous apprécions. Un don que nous défendons et protégeons. Mais ce n'est pas une idole non plus. Une société néglige ce don à ses risques et périls. Mais en disant que Dieu est l'auteur du mariage, il faut que nous comprenions aussi que c'est Dieu qui décide les buts et la nature du mariage. Et ça nous amène à notre deuxième considération ce matin. Dieu décide le but et le caractère du mariage. Le premier but que nous trouvons se trouve non pas dans ce passage, mais dans, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais dans le premier chapitre de Genèse, verset 28. C'est le premier commandement que Dieu donne à Adam et à Ève. Nous lisons, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu a créé le mariage et la famille pour la procréation pour la croissance du genre humain. Ce n'est pas le seul but du mariage, mais la Bible dit que la procréation et l'éducation des enfants devraient se faire dans le contexte du mariage. Ça, c'est tout ce que je vais dire là-dessus pour ce matin. Deuxième but que nous voyons dans notre texte, c'est qui nous donne plusieurs, c'est que Dieu a créé la femme. Il a présenté à l'homme pour répondre à ce que Dieu a trouvé pas bon. En créant le mariage, Dieu se prononce sur une des plus grandes peurs de chaque être humain. Et c'est la solitude, la peur d'être seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout de suite après avoir dit cela, Dieu donne sa réponse à ce problème en créant la femme. Dieu établit le mariage pour répondre à ce besoin fondamental chez l'être humain. On peut dire alors que le mariage, c'est l'antidote de Dieu contre la solitude. Nous voyons alors qu'un des buts principaux du mariage, c'est la compagnie, la camaraderie, l'amitié. L'homme et la femme sont des amis. Ils se parlent souvent, tous les jours, pas simplement de façon superficielle pour savoir qui va acheter du pain ou à quelle heure il faut sortir. Si les enfants ont fait leurs devoirs, ils se parlent de ce qui est sur leur cœur. Ils se parlent de leurs rêves, leurs soucis, de ce qu'ils ressentent dans leur fort intérieur. Ils se déchargent de leur fardeau. Ils s'ouvrent le cœur l'un à l'autre. Ils se parlent de ce qui leur est vraiment important. Ce sont de vrais amis, de vrais compagnons. Le but du mariage, c'est la compagnie, l'amitié profonde et réelle. Le pasteur américain Tim Keller écrit « L'amitié entre époux se manifeste et mûrit par l'écoute et l'ouverture mutuelle. » Il continue, le mariage est une relation sécurisante dans laquelle il est possible de partager ses craintes, ses blessures et ses faiblesses. C'est un refuge affectif. Dieu nous a donné le mariage pour répondre à ce besoin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, en troisième lieu, nous notons que, encore un but du mariage, nous lisons « Je lui ferai une aide » ou un secours, on peut dire, une aide. Et tout de suite, en entendant ce mot « aide », certains vont peut-être penser que c'est un mot qui donne pas, qui ne rend pas à la femme la gloire qu'elle mérite. Elle est tout simplement une aide. Elle existe simplement pour aider son mari. Mais il faut croire qu'il n'y a rien de servile dedans. C'est un mot qui décrit la relation de Dieu avec Israël. Dieu est une aide. Alors si vous, les femmes mariées, vous pensez, moi je ne suis pas simplement une aide, Dieu est une aide. Vous faites ce que Dieu fait. C'est un mot qui décrit cette relation. Moïse a nommé un de ses fils Eliezer, qui veut dire « le Dieu de mon père m'a aidé ». Et dans 1 Samuel 7, nous lisons « Samuel prit une pierre, il la plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a aidés ». C'est le même nom. Donc il ne faut pas que la femme se sente avile ou dégradée. Dieu lui donne un rôle que Dieu lui-même avait accompli. Ce que Dieu est en train de dire est simplement que l'homme est incapable d'accomplir ses responsabilités tout seul. L'homme a besoin d'aide. Nous avons déjà lu les versets 28 du chapitre 1. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt, qui se meurt sur la terre. Il les bénit ensemble. Il leur donne des instructions et des responsabilités. Vois ça, dit Dieu, ce que vous devez faire ensemble. Je vous ai créé pour travailler en équipe, en partenariat l'un avec l'autre. Vous devez alors vous aider. Vous devez alors vous encourager dans les tâches que je vous ai données. Vous accomplissez ces tâches ensemble. Vous êtes une équipe. partenaire, coéquipier. Le mariage ne sera pas un tir à la corde. Vous tirez l'un contre l'autre. Non, vous allez travailler en tandem. Souvent, quand on part en vacances, on voit les gens qui font du vélo en tandem. Et Esther dit, elle aimerait bien faire ça. Moi, j'ai un peu moins envie qu'elle, je pense. Mais des fois, on voit une personne qui fait tout le travail et l'autre qui ne fait rien. C'est pas ça que Dieu envisage ici. Vous êtes là pour vous aider l'un l'autre. Mettez-vous d'accord sur la meilleure façon de faire le travail que Dieu vous a donné. Mettez-vous d'accord sur vos buts, sur vos désirs, vos priorités, votre argent, votre service du Seigneur. Et puis aidez-vous l'un l'autre à accomplir tout ce que vous entreprenez. Dieu crée un partenariat ou une équipe pour accomplir ses responsabilités. Alors je parle au mari. Quelles sont les responsabilités que Dieu a données à votre épouse? Et qu'est-ce que vous faites pour l'aider à les accomplir? Les tâches que Dieu a données à votre épouse, est-ce que vous aidez votre épouse à les faire? Ou est-ce que vous ne pensez qu'à vous-même? Je parle aux épouses, aux femmes. Est-ce que vous encouragez votre mari à accomplir ses responsabilités? Ses responsabilités en tant que mari, en tant que père, chef de la famille. Est-ce que vous l'aidez ou est-ce que vos attitudes, vos actions rendent sa vie et ses responsabilités plus difficiles, plus pénibles? Êtes-vous une équipe ou êtes-vous simplement deux individus qui tirent l'un contre l'autre? Y a-t-il de vraies coopérations ou y a-t-il du désaccord? Dieu donne une aide. Et puis en quatrième lieu, le quatrième but que Dieu attribue au mariage se voit dans le mot semblable ou vis-à-vis, semblable à lui. Dieu crée une aide semblable à l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous comprendre de ce mot? C'est un mot qui est très difficile à traduire en français, en anglais. Mais dans ce mot, il y a le sens de semblable, mais en même temps différent. Semblable et différent. Différent, autre ou même contraire. Il y a des similarités, mais il y a des différences. Il y a des similarités physiques. L'homme et la femme sont tous les deux de la race humaine. Dieu n'a pas amené un chien ou un singe ou un cheval à Adam. Adam lui-même dit « Celle qui est os de mes os est chair de ma chair ». Il y a des similarités. Mais il y a aussi des différences physiques, et surtout sur le plan sexuel. Dieu les a créés expressément et spécifiquement de sorte qu'ils soient différents et qu'ils se complètent sur le plan sexuel. Ce n'est pas vrai de deux hommes, ni de deux femmes. Dieu les a conçus pour être différents, mais assortis, semblables. Dieu les a créés pour répondre au manque chez l'autre. Un auteur a dit, l'homme et sa femme se complètent l'un l'autre par des moyens mutuellement enrichissants. Voilà quelque chose de magnifique devant nous. Dieu voit des manques chez l'homme et il crée une femme pour répondre à ces manques. Il voit quelque chose qui n'est pas bon, il répond en donnant à l'humanité la relation du mariage. L'homme et la femme unis pour se multiplier, pour qu'ils ne soient pas seuls, pour s'aider à accomplir les tâches que Dieu leur donne et pour compléter ou être le complément l'un de l'autre. Voilà la beauté du mariage. Voilà le plan magnifique de Dieu pour le mariage. Ce passage ne dit pas que ceux qui ne sont pas mariés vont toujours se sentir seuls. Ce n'est pas le cas. Ce passage ne dit pas que ceux qui sont célibataires ne pourront pas accomplir les tâches que Dieu leur donne, ne pourront pas s'épanouir. Ce n'est pas du tout ce que le passage dit. N'oubliez pas que l'homme le plus épanoui de tous les temps, Jésus-Christ, n'a jamais été marié. L'apôtre Paul a bien pu accomplir les tâches que Dieu lui a données. Il était célibataire. Dieu peut choisir de bénir la personne célibataire de façon différente. Il peut répondre différemment à ses besoins. Et des fois, une personne mariée peut se sentir beaucoup plus isolée qu'une personne célibataire. Donc ce passage ne dit pas que le bonheur ne se trouve qu'en le mariage. Ce n'est pas du tout ce que disent les versets. Ces versets nous donnent simplement une image du mariage tel que Dieu l'a créé. Ils nous donnent un regard exalté du mariage. Le mariage, c'est une bonne chose. Nous voyons ce que le mariage doit être, ses buts, pourquoi Dieu l'a créé. C'est un don de Dieu. Et pour en profiter au maximum, il faut que nous comprenions selon ce que les versets nous enseignent. Mais pour terminer cette petite partie, Dieu nous explique non seulement pas simplement les buts du mariage, mais aussi la nature ou le caractère du mariage. Dans le verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et dans ce verset, nous voyons trois choses. C'est une relation exclusive, permanente et complète. Exclusive, permanente et complète. L'homme quittera son père et sa mère. Dans notre culture, on peut comprendre que ça veut dire qu'une fois mariés, l'homme et la femme ne vivront plus chez leurs parents. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres cultures. Et ce n'était pas la culture de Moïse qui écrit ce livre, où les gens se mariaient et restaient dans leur famille. Alors, il ne faut pas comprendre simplement que l'homme quittera le foyer de ses parents. Ce que cette phrase veut dire, c'est que la priorité dans la vie de l'homme et de la femme est désormais leur nouvelle relation, la nouvelle famille, cette famille qu'ils viennent de fonder. Les premières obligations de l'homme sont à sa femme, et vice-versa. Sa nouvelle femme passe devant toute autre relation humaine, la famille, les amis. Et sa nouvelle... il faut que les enfants quittent leurs parents, ils continuent à les respecter, mais il faut les quitter quand même. Et je ne vais pas ouvrir une parenthèse, mais il faut aussi que les parents les laissent partir. Et n'essaient pas toujours de mêler dans les affaires de leurs enfants. Dans le mariage, il y a une inauguration d'une responsabilité fondamentale, nouvelle. On quitte l'ancienne famille. Et puis le verset dit que l'homme s'attachera à sa femme. Ça, c'est une relation permanente. Une traduction plus précise de ce verbe pourrait être « l'homme se collera à sa femme ». C'est ce que Dieu demandait de son peuple. Dans Deutéronome 10, verset 20, nous lisons « Tu t'attacheras à l'Éternel ». C'est le même verbe. C'est une relation d'alliance, de fidélité. Pas d'autre Dieu. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Vous connaissez le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une relation exclusive. Même chose pour le mariage. Tu n'auras pas d'autres femmes, d'autres hommes devant ma face. Pas d'autres relations. Et quand en France, quand on pense qu'en France, plus de 300 divorces sont prononcés chaque jour, on voit qu'on a largement rejeté l'idée d'exclusivité et de permanence. Et les retombées de ce rejet de ce don sont incalculables. On a rejeté l'idée d'exclusivité, de permanence. Et puis la dernière partie de ce verset souligne l'exclusivité et la permanence du mariage. ils deviendront une seule chair. Oui, ça parle de l'union sexuelle entre l'homme et la femme, mais cette phrase décrit également une unité complète des deux parties qui forment un tout. L'union conjugale est complète et entière entre deux personnes. On se donne complètement à l'autre. La personne mariée ne peut plus se voir comme un individu. Elle a choisi d'entrer en alliance, de se donner à une relation permanente, exclusive, complète, qui la définira désormais. La personne mariée aura une nouvelle identité. Elle fait partie d'une alliance faite devant Dieu lui-même, inaugurée par Dieu lui-même. Moi, je ne veux pas que les gens pensent, quand ils pensent à moi, qu'ils pensent à moi seul. Je veux qu'ils pensent à moi en tant que mari. Je ne suis pas un individu. J'ai pris un choix de devenir, de faire partie d'un couple. C'est complète, c'est exclusif, c'est permanent. Et ce n'est pas, peut-être pas ce que notre société pense. Mais c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc c'est Dieu qui nous dit à quoi le mariage doit ressembler. Nous ne suivons pas les enseignements, les engouements passagers de la société qui a rejeté Dieu. Nous suivons la parole de Dieu. Le point d'ancrage du mariage est la parole de celui qui nous l'a donné. Dieu en est l'auteur. C'est lui qui crée la femme et qui la présente à l'homme. Dieu décide les buts et le caractère du mariage. Mais si c'est tout ce que nous voyons dans le mariage, si nous pensons que le but du mariage est limité à ce que je viens de dire, nous manquerons complètement, complètement, le but principal du mariage. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point ce matin. Dieu se sert du mariage pour décrire une plus grande réalité. J'ai dit lors de notre dernière prédication qu'il faut toujours laisser la Bible interpréter la Bible. Il est toujours important de voir ce que les autres parties de la Bible disent sur d'autres parties, les versets que nous étudions. Et ces versets dans Genèse 2 sont cités ailleurs dans la Bible. Jésus les cite pour répondre à une question sur le divorce. Et Paul les cite dans le passage que nous avons lu en Éphésiens 5. Et nous lisons dans versets 31 et 32 d'Éphésiens 5, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Le mariage, dit Paul, existe pour nous aider à comprendre la relation entre Christ et son Église, ceux et celles que Jésus a rachetées, qu'il a sauvées. Paul a déjà fait le lien entre le mariage et cette relation quand il a dit « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église ». Pour Paul, l'union permanente, exclusive et complète du mariage est une image de notre relation avec Jésus, notre union avec Jésus. Cette relation avec Jésus est une relation permanente. Jésus sera toujours fidèle. Il ne va jamais nous décevoir. Il ne va jamais nous tromper. Jésus n'abandonnera jamais son épouse. Nous avons vu que l'homme s'attachera à son épouse, qu'il se collera à elle. Et cela nous aide à comprendre la relation de Jésus avec son Église. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Il gardera son église en sécurité. Il ne perdra, nous avons vu la semaine dernière, il ne perdra pas un seul de ceux que son Père lui a donnés. Il ne nous laissera ni nous abandonnera jamais. Cette union est permanente et complète. C'est une relation exclusive aussi. Jésus s'est renié pour mourir pour son Église et il nous demande de faire pareil pour lui. Nous lisons dans Luc 14, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Voilà l'engagement que Jésus demande de son épouse, l'Église, de nous. Il faut quitter certaines choses et nous attacher à Jésus. Nous quittons notre ancienne vie, notre ancien maître, notre ancienne façon de penser, de voir le monde. Nous quittons notre égoïsme, notre péché, et nous nous attachons à Jésus-Christ par la foi. C'est ce que la Bible appelle la repentance. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à notre époux, nous arrêtons de le faire. C'est normal. Si quelque chose nuit à ma relation avec mon épouse, je n'aurais pas envie de le faire. Je dis non à moi-même pour lui plaire. Et c'est pareil avec Jésus. Comment continuer à faire ce qui déplaît à Jésus? Son but est de nous purifier. Alors ce n'est pas normal que l'Église, dans l'Église, nous n'ayons pas envie de coopérer avec lui. Et puis l'union complète du couple marié est une image de l'union complète de Jésus avec son peuple. Le chrétien peut dire « Je suis en Jésus-Christ, il est en moi ». C'est une phrase qu'on lit, on entend à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Être en Jésus-Christ, être uni à Jésus en sa mort, en sa résurrection, en sa vie qu'il me donne. Vous vous souvenez de la prière que nous avons vue dimanche dernier? Jésus a prié que aussi soit un en nous, qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux, Jésus en nous. Voilà l'union complète en Jésus-Christ. Mes amis, j'ai déjà dit que ce n'est pas tout le monde qui se marie. Certains par choix. D'autres aimeraient bien être mariés, mais ça ne leur arrive pas pour une raison ou une autre. Donc ce que j'ai dit au début sur le mariage sera peut-être plus utile pour certains que pour d'autres. Mais il faut surtout comprendre ceci, surtout. Le mariage le plus important, le mariage qui durera éternellement, n'est pas le mariage entre un homme et une femme. C'est le mariage de Jésus-Christ, entre Jésus-Christ, Christ et son Église, et son peuple. Et bien que le mariage que nous avons vu ce matin soit une belle chose, et c'est vrai, c'est quelque chose, c'est beau le mariage. C'est un véritable don de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourtant, tous sont invités à participer au mariage avec Jésus. Tous sont invités à connaître et à expérimenter son amour, sa fidélité, sa grâce. Tous sont invités à être unis à Jésus-Christ par la foi en lui. Je veux bien que, grâce à cette prédication, ceux d'entre nous qui sont mariés, que vous ayez un mariage qui soit plus fort et qui ressemble de plus en plus à ce qui est écrit ici. C'est ma prière pour vous. Mais beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Je veux que chacun et que chacune soit marié à Jésus-Christ. C'est une invitation qui est offerte à tous. La Bible parle de ceux qui rejettent cette invitation. Quelle tristesse! Tristesse éternelle pour eux. Mais pour ceux qui acceptent cette invitation, voilà ce que dit la Bible. En Apocalypse 19, 9, l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » De Jésus. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Avez-vous accepté cette invitation à ce grand festin de noces avec Jésus-Christ? Amen.